Chapitre 15. J'arrivais le premier à l'homme du couloir voisin parce que je trichais un peu. Au lieu de redescendre la goulotte et de remonter dans celle d'à côté, comme le fit sagement Jean-Claude, je gaspillais mon énergie déclinante à escalader le bloc rocheux de 3 mètres séparant les deux, puis sauter dans la neige, battant frénétiquement des bras, puis plantant mon piolet pour ne pas glisser. Mon effort idiot et risqué me permit au moins d'arriver devant le cadavre quelques minutes avant les autres. Car il s'agissait bien d'un cadavre, comme je le vis immédiatement. Un cadavre des plus étranges. L'homme, grand et musclé, semblait avoir basculé de la roche plate quelques mètres au-dessus sur laquelle il devait être assis. C'était un alpiniste anglais, il n'y avait aucun doute là-dessus. Comme Mallory, il n'avait pas de bouteille d'oxygène sur le dos, uniquement un anorak déchiré par le vent, par-dessus une veste Norfolk et plusieurs épaisseurs visibles de pull de laine. Les vestiges d'un casque en cuir, de motard ou d'aviateur, étaient bizarrement remontés sur le côté droit de sa tête, ainsi que les lambeaux d'une grande capuche de laine. Il ne portait pas de lunettes et son visage était offert aux éléments. Ce qui rendait sa posture bizarre, c'est qu'il était figé en position assise, les mains serrées l'une contre l'autre, comme s'il avait été en prière ou en train d'essayer de se réchauffer. Ses mains étaient pressées entre les genoux, tellement collées l'une à l'autre, qu'il paraissait former une unique masse gelée. Marmant de courage, je m'accroupis pour regarder son visage de plus près. Ça avait été un beau visage, et sans doute très jeune, bien qu'une année passée à la merci des vents et du soleil à cette altitude l'ait altéré d'étranges façons. Je distinguais les marques profondes laissées par un masque à oxygène près de l'arête du nez et de chaque côté de la bouche bien dessinée. Cette bouche offrait un spectacle dérangeant, puisqu'elle était ouverte comme sur un dernier cri, ou à cause d'une crispation des tendons à l'instant de la mort. Ses lèvres ridées découvraient ses dents blanches et des gencives brunes. Il avait les paupières fermées, les yeux eux-mêmes paraissaient creusés, comme si les globes oculaires manquaient, et de la neige et du givre s'étaient déposés dans les fosses occipitales. Le côté droit de ce jeune visage, autrefois si beau, semblait presque intact, s'il n'y avait eu d'étranges lambeaux de peau translucide pendant sur ses joues, son front et son menton. Ce que je pris d'abord pour une blessure causée par la chute, une déchirure dans la peau du côté gauche, était en réalité la cavité creusée par les goraks dans la chair gelée, pour atteindre les tissus plus mous en dessous. De sorte que la pommette du pauvre homme était exposée, ainsi que toutes les dents du côté gauche et du tissu musculaire brunâtre. C'était comme si ce côté du visage du cadavre me souriait largement, et j'avoue que l'effet me troubla beaucoup. La moitié du front et du cuir chevelu était dégagée, et je vis qu'il avait les cheveux courts et si blonds qu'il paraissait presque blanc à travers mes lunettes crooks. Les retirant un instant pour mieux voir, je m'aperçus que les cheveux, encore peignés en arrière, étaient vraiment blancs, sans doute décolorés par un an d'exposition aux rayons ultraviolets à cette altitude. Il y avait des poils blancs sur sa joue droite intacte, mais sa barbe était encore blonde le long de la mâchoire du côté abîmé du visage. Je cherchais des yeux un sac à dos ou autre, mais le cadavre ne portait qu'un étui de masque à gaz en toile autour du cou, comme George Mallory. Refoulant un soudain accès de nausée, je raccrochais mon masque à oxygène à mon casque de cuir, tournais le régulateur sur le débit minimal et inhalais un peu d'air anglais pour relancer mes neurones. Je m'écartais du corps au moment même où mes 4 compagnons parcouraient les derniers mètres de la goulotte pour me rejoindre. Il y eut un moment de silence partagé, plus pour permettre à nos poumons de faire un plein d'oxygène que par respect pour le défunt à nos pieds. Ça viendrait plus tard. Pour l'heure, je m'abreuvais de l'air riche de ma bouteille pressurisée et clignais des paupières pour chasser les points noirs qui dansaient dans mon champ de vision rétréci. Cette escalade libre de l'arête de roche, à plus de 8500 mètres, n'était pas la chose la plus intelligente que j'avais faite au cours de cette interminable semaine. Je baissai mon masque.
« Est-ce votre cousin Percival, Reggie ?»
Elle me jeta un regard, semblant se demander si j'étais sérieux ou non, Puis elle vit que je l'étais et secoua la tête. À cause de sa roulade sur la pente, quelques mèches de ses exquis cheveux bleu noir s'étaient échappées de son bonnet d'aviateur en cuir doublé de fourrure. Elle venait de remonter ses lunettes pour mieux examiner le corps, et ses yeux ultramarins étaient plus ravissants que jamais.
« Cet homme avait à peine plus de 20 ans quand il est mort, »
dit-elle.
« Mon cousin Percival a eu 34 ans l'année dernière. En plus, Percy était brun. Il avait les cheveux plus longs que ça, et une fine moustache à la manière de Douglas Fairbanks.
« Qui est-ce alors ?»«
Messieurs, »
reprit Reggie d'une voix triste.
« Vous contemplez la dépouille mortelle d'Andrew Comyn, dit Sandy à Irvine. »
Jean-Claude se signa. C'était la première fois que je le voyais faire ce geste. Je baissai mon masque suffisamment longtemps pour dire
« Je ne comprends pas. J'ai retrouvé Mallory 200 ou 250 mètres plus bas. Mais Irvine a aussi une corde autour de lui. Et coupé assez près du corps. »
Je m'interrompis. Le diacre regarda autour de lui.
Vous avez raison, Jake.
Il ne soufflait encore qu'une infime brise ici à plus de 8500 mètres.
Mallory n'est pas tombé de cette hauteur. Sans quoi, son corps aurait été beaucoup plus abîmé après avoir dégringolé la bande jaune et roulé sur ses arêtes et tous ses rochers.
Il descendait donc séparément ?
Demanda J.C. On devinait le guide de Chamonix dans son ton désapprobateur.
« Je ne crois pas, » dit le diacre. « Je pense que l'accident, la chute, s'est produit beaucoup plus bas. Sous la bande jaune et cette ligne de crête. Quelque part dans ces goulottes rocheuses. L'un d'eux est tombé le premier, et... aussi difficile à croire que ce soit. Je pense que c'était Mallory.
Pourquoi ?
Demandai-je.
À cause de la blessure sur le genou d'Irvine,
répondit Passang en haletant. Je ne l'avais pas remarqué. Au-dessus des bandes molletières à la blancheur sale, le tissu déchiré et raidi par du sang séché laissait voir une espèce de bouillie de cartilage.
« Qu'est-ce que ça prouve ? »
demandai-je avant de remettre mon masque.
« Ça prouve qu'Irvine a fait une petite chute, et Mallory une plus longue, »
répondit le diacre.
« Mais remarquez la corde d'escalade sectionnée à seulement 3 mètres du corps d'Irvine, comme pour Mallory. » Je suppose qu'elle s'est rompue sur un rocher tranchant, mais pas avant que les deux hommes ne subissent des lésions internes.
Qui sont responsables de leur mort ?
Demanda Reggie.
Non, répondit Passang. Monsieur Mallory est mort des suites de sa chute et de la température glaciale. Mais, à mon avis, il a perdu connaissance dans les premières minutes, voire les premières secondes, en raison de sa terrible blessure à la tête, ou de la douleur causée par sa jambe cassée. Monsieur Irvine, qui devait se trouver en position d'assurage sur un rocher un peu plus bas, a dû perdre l'équilibre et se briser le genou dans sa chute. Très, très douloureux, d'ailleurs. La fracture du genou compte parmi les blessures les plus difficilement soutenables. Entendant le bruit de la longue chute de Monsieur Mallory et ses cris qui diminuaient, Monsieur Irvine a dû remonter la pente en rampant pour venir ici, où il s'est assis dans le noir avant de mourir de froid. Pourquoi serait-il remonté ? Demanda Jean-Claude. L'arc-en-6 se trouvait à plusieurs centaines de mètres, plus bas et à l'est. N'oubliez pas qu'aucun des deux n'avait de boussole. Monsieur Mallory conduisait la descente à travers le dédale de rochers sous la bande jaune lorsqu'il est, peut-être, tombé et a sûrement provoqué la chute de Monsieur Irvin et la fracture de sa patella. Sa patella? La rotule, précisa Passang. Ça n'explique pas pourquoi Irvin se serait traîné vers le haut de la pente alors que Mallory l'avait dévalé. Peut-être y avait-il une dernière bande de soleil ici, près de l'arête. Sandy devait avoir très, très froid. Et il a peut-être voulu profiter de quelques minutes supplémentaires de chaleur et de vie,
suggéra Reggie.
En tout cas, voici son carnet.
Elle venait de le sortir de la poche de poitrine de la veste Norfolk d'Irvin. Nous nous regroupâmes autour d'elle. Comme nous le savions déjà, Irvin avait une orthographe épouvantable, sans doute une sévère dyslexie, comme je le compris des années plus tard. Mais là, il avait écrit en abréviation avec un crayon mal taillé, si bien que sa lecture s'apparenta à une séance de déchiffrage d'un code allemand. Je baissai une fois encore mon masque.
Qu'est-ce que ça veut dire? JT, premier Bethle, 3h48, Aps, Havre, KT, CP, V, SS, premier RST, RG, HT, DBT, 2.2L, TT, DU, LG.
Jean-Claude répondit. Il n'était pas meilleur que nous en déchiffrage, mais expert en ce qui concernait les bouteilles d'oxygène.
Jeter la première bouteille, 3h48, après avoir quitté le camp 5 sous le premier assaut, réglé sur le haut débit de 2,2 par litre, tout du long.
C'est cohérent, dit le diacre à voix étouffée. S'ils ont utilisé le haut débit sans discontinuer, du camp 5 jusqu'ici, ce matin-là, ils ont dû vider la première bouteille juste avant le premier assaut.
Combien de bouteilles avait-il ?
Demanda Reggie. Le diacre haussa les épaules.
Personne ne le sait exactement. Je dirais 5 à eux deux.
Mon Dieu,
murmura Reggie.
Avec 5 bouteilles, et sachant qu'ils sont partis à l'aube, ils auraient pu atteindre le sommet de l'Everest et avoir assez d'oxygène dans la descente jusqu'au deuxième ressaut.
Que dit-il d'autre ? Demanda le diacre. M, Mi, F, T, O, R, T, N, S, 1, B, L, N, D, T, 1, T, S, 2, T, S, fier. ACDT, PES, EVETBLE, M, GLIS, CDK, ML, OGNUM, MS, que, AVT, VESJE, BLE, ENT, PL1, ET, LES, M9K, TS, TS, FD, AD, MA, JIVA, PA, H, et TT, TD, DSL.
Le diacre réfléchit un instant et tenta de claquer des doigts sous ses grosses moufles.
Mallory a laissé la photo de Ruth dans un bel endroit.
Tous deux très fiers. Accident pas évitable. Mallory a glissé. La corde a cassé.
Et ce passage-là ?
Demanda Passang, désignant ML Ognum MS KVT,
Vesge, Blé, Plus, Delreux, NT, PL1, Etles, Magnefke, TS, TSFD.
Mal au genou, mais moins qu'avant,
traduisit Reggie, qui avait saisi le système de sténo du défunt.
Visage.
Elle réfléchit au blé.
Visage brûlé, suggéra le diacre.
Reggie hocha la tête et soupira.
Visage brûlé, plus douloureux. Nuit, plein d'étoiles. Magnifique. Très, très froid.
Comme je ne voulais pas me mettre à pleurer, je me concentrais sur le visage du mort. Il était sans émotion.
Et là,
demanda J.C. en montrant la fin.
Adma, Jva, Pin, H, et Tété, Dédé, DSL.
Le diacre et Reggie échangèrent un regard. Et Reggie traduisit d'une voix tendue mais ferme.
Adieu, maman. Je vous aime, papa, Hugues, son frère aîné. Et tante Dédé.
Elle marqua une pause.
Tante Dédé, j'en suis presque certaine. Prénom Christina. Il en a parlé deux fois lors du dernier dîner à la plantation. Et il finit par... Désolé.
Il devait faire très noir quand ils ont tenté de trouver leur chemin pour descendre à travers ces vires et ces goulottes, dit le diacre presque comme s'il se parlait à lui-même. Raison pour laquelle ils ne portaient pas leurs lunettes.
Ce ne sont que des hypothèses,
dit Jean-Claude. Oui, mon ami. Mais Jake a peut-être trouvé la preuve qu'ils ont atteint le sommet.
Ah bon,
m'étonnai-je.
Une note de Sandy à Irvin, disant que Mallory a laissé la photo de Ruth, sa femme, dans un bel endroit, et qu'ils étaient tous deux très fiers. Pour moi, ça ressemble à un aveu de victoire.
À moins que Mallory n'ait laissé la photo au point le plus haut qu'ils aient atteint,
fit remarquer Reggie.
Là où ils ont fait demi-tour, par crainte d'être piégés par l'obscurité. La vue de n'importe où au-dessus du deuxième ressaut est sûrement très belle.
Nous ne le saurons jamais, dis-je.
Le diacre me regarda.
Sauf si nous atteignons le sommet et trouvons la photo de Ruth là-haut.
Après ça, personne ne parla pendant un instant. Je m'aperçus que nous avions tous les mains jointes, comme si nous prions pour Sandy à Irvin. Nous lui offrions ce moment de silence respectueux que j'ai mentionné plus haut.
« Je suis désolé que ces foutus corbeaux se soient attaqués à son visage, » dis-je soudain.
« Pas de ce côté-ci, »
dit Passang. Il retira ses deux épaisseurs de moufles et montra de son doigt ganté les étranges lambeaux translucides qui pendaient du côté droit du visage de ce pauvre Irvin.
« C'est la peau qui a pelé, à cause du terrible coup de soleil qu'il a attrapé vivant, » dit-il. « Ça a dû le faire souffrir atrocement au cours des derniers jours et des dernières heures de sa vie. » Surtout avec le masque à oxygène qui s'enfonçait dans sa chair brûlée et à vif. Ah, Irvin ne se serait pas plaint,
dit Reggie. Le diacre cligna des paupières.
J'avais presque oublié que vous l'aviez rencontré l'année dernière sur votre plantation.
Reggie hocha la tête.
Il m'a semblé être un homme merveilleux. Il m'a fait bien meilleure impression que George Mallory.
Elle montra le fourre-tout qu'il portait et sa grosse veste Norfolk.
Regardons ce qu'il transportait.
Si vous voulez bien nous pardonner, monsieur Irvin, dit le diacre.
Là-dessus, il ouvrit le rabat de l'étui de masque à gaz et commença à le vider. Comme avec Mallory, il y avait des choses personnelles, une boîte en fer blanc de pastilles contre la toux, des papiers, la même lanière de cuir pour fixer son masque à oxygène, et aussi un petit appareil photo. Je crois que c'est le Kodak Vest Pocket de George Mallory, annonça le diacre.
Vous avez raison,
confirma Reggie.
Il l'a montré à Lady Lytton et au frère d'Hermione, Tony Nemworth, lors du dîner que j'ai donné à la plantation, la veille de leur départ, au mois de mars l'année dernière.
Mettons tous nos lunettes, dit le diacre. La neige est brillante.
Il passa l'appareil photo à la ronde en disant seulement
« Ne le faites pas tomber, s'il vous plaît. »
L'objet noir n'était pas plus grand qu'une boîte de sardines. Il aurait facilement tenu dans la poche de poitrine d'un des deux hommes, même si Aervin l'avait rangé dans son fourre-tout. J.C., plus hardi que moi, le déplia en tirant sur le soufflet attaché à un X en métal articulé. Le mécanisme s'ouvrit sans difficulté, comme s'il n'avait pas subi un été de mousson, un hiver interminable et un rude printemps à plus de 8000 mètres d'altitude. Il n'y avait pas de viseur. Pour prendre une photo, on tenait l'appareil déployé à hauteur de la poitrine, en baissant les yeux vers un tout petit prisme et on appuyait sur un petit levier pour déclencher l'obturateur. En termes de fonctionnement, il n'y avait pas plus simple et plus infaillible que le Kodak Vest Pocket. Tenant l'appareil devant son torse, J.C. s'éloigna d'un pas de nous cinq en comptant le corps d'Aervin.
« L'image est à l'envers, » dit-il.
Puis il ajouta
« Tout le monde dit cheese !»
Le diacre commença à protester, mais J.C. avait déjà appuyé sur l'obturateur.
« Ça marche, » dit-il. « On doit féliciter l'entreprise Kodak. » Je vais peut-être leur envoyer une recommandation pour leur publicité. Comment pouvez-vous plaisanter en un moment pareil ?
Demanda Reggie. Elle avait parlé d'une voix douce, mais J.C. baissa la tête comme un enfant qui vient de se faire gronder. Aucun de nous ne voulait perdre les faveurs de Lady Bromley-Montfort.
S'il y avait quelque chose sur cette image,
dit le diacre d'un ton las,
vous l'avez peut-être gâché par surimpression.
Non,
dit J.C. en remettant ses lunettes.
J'ai réarmé avant de prendre notre photo de groupe. C'est fou que le mécanisme n'ait pas gelé.
Il regarda le diacre en face.
Si c'est l'appareil de Mallory, qu'est-ce qu'il fait dans le sac de Monsieur Aervin? Ou est-ce que chaque homme en avait un?
D'après Norton et John Noel, seul Mallory avait un Kodak Vest Pocket. Aervin est censé avoir emporté deux appareils les deux derniers jours, dont une des caméras miniatures de Noël, mais ils ne sont pas dans ses poches ni dans son fourre-tout. Le diacre secoua la tête, l'air sinistre. La présence du corps de Sandy Aervin semblait beaucoup l'affecter, bien qu'il n'ait jamais rencontré le jeune homme. Puis son visage s'éclaira. Et il nous regarda les uns après les autres.
« Vous vous souvenez de ce qu'a dit Passang, il y a quelques jours ?»« Quand vous voulez qu'on vous prenne en photo. »« Que faites-vous »
Il paraissait tout ragaillardi.
« Le prêter à quelqu'un pour qu'il la prenne ?»
répondit Reggie du tac au tac. Son cerveau fonctionnait bien plus vite que le mien, pourtant fortifié par l'air anglais.
« S'ils ont atteint le sommet, » intervint J.C., Mallory a sûrement pris une photo d'Aervin avant de lui passer l'appareil pour qu'il fasse de même. Ensuite, Aervin l'a peut-être rangé dans son fourre-tout. Ce n'est pas illogique.
Nous devons garder cet appareil, dit le diacre.
Et prendre aussi ses dernières notes d'Aervin pour les envoyer à sa famille.
Tout à fait,
acquiesça le diacre.
Mais seulement si nous ne retrouvons pas votre cousin Percival, Meyer et leur... je ne sais pas quoi.
Et ne sommes pas obligés de garder le secret sur cette expédition.
Mais prenez le carnet, Reggie. Si nous survivons à cette aventure, et que nous sommes autorisés à en parler après, j'aurais envie, bon sang, tout le monde aura envie, de savoir si Mallory et Aervin ont vaincu le sommet l'année dernière.
Tenez, Jake,
ajouta-t-il, gardez l'appareil photo.
Je parie que dedans, il y a les négatifs qui répondront à toutes nos questions sur leur ascension.
Pourquoi moi ?
Demandai-je. L'idée de transporter l'appareil de Mallory me troublait, même si j'ignorais pourquoi.
Parce que vous portez la charge la plus légère. Et que je crois que vous survivrez peut-être à cette ascension.